Bonjour. Je vais prier. Seigneur, nous venons devant toi cet après-midi et nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur. Que tu puisses aujourd'hui nous enseigner, nous faire connaître ce que tu veux pour notre vie. Seigneur, travaille là où il faut travailler. Que nous soyons entre tes mains comme de l'argile. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Georges Müller? Oui? D'accord, il y en a deux, c'est ça, qui se battent en duel. Bon, bah très bien. Georges Müller, en fait, c'est un homme qui est né au 19e siècle. Et en fait, c'est un des leaders des assemblées des Frères Larges. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être pas trop les Frères Larges, en fait, c'est en France les CAEF, donc le CEP Saint-Maur, l'Église de Nation. Ça vous parle un peu plus? Oui, c'est bon? Lui, son ministère, c'était les orphelins. Personnellement, moi, j'ai lu sa biographie, qui s'appelle « L'audace de la foi ». Et à l'époque où je l'ai lu, ça m'a vraiment mis une claque par rapport à la vie de foi que je menais. Et ça m'a donné envie de plus. Ça m'a encouragée. Pour la petite histoire, Georges Müller, il se faisait un point d'honneur, en fait, à ne pas demander de l'argent pour son ministère. Jamais. Et pourtant, il a construit des écoles, il a construit des orphelinats. Enfin, ça demandait pas mal de sous, il fallait nourrir les orphelins, etc. Il y a eu des difficultés financières, c'était vraiment la galère. Mais lui, il priait et il se mettait à l'œuvre. Georges Müller voyait grand parce qu'il croyait en un Dieu qui est grand et qui est puissant. Et Dieu a pourvu à chaque instant. Ça, c'est juste une petite anecdote. Hein. Si vous voulez la suite, lisez son livre. La vie de Georges Müller est caractérisée par la foi. Et notre vie, quel sera le bilan à la fin de notre vie? Si notre vie aujourd'hui devait être caractérisée par quelque chose, ça serait par quoi? Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à prendre le livre de l'Ecclésiaste, les 6 premiers versets, du chapitre 11. Ecclésiaste, chapitre 11, versets 1 à 6. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez aussi lire à l'écran. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre. Quand les nuages sont gorgés d'eau, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? Ecclésiaste, c'est un peu un livre énigmatique. Selon la tradition, l'Ecclésiaste, c'est Salomon. Et dans tout le livre, il propose un enseignement basé sur sa propre expérience. Dans ce passage, l'Ecclésiaste approche de sa conclusion. Il y a 12 chapitres. Auparavant, il s'est intéressé à des thèmes de la vie courante, de notre quotidien, comme la mort, le temps, le travail, la politique et plein d'autres thèmes. Et maintenant, il ouvre sur un nouveau thème. passage à l'action. Il nous propose de prendre part à une aventure. À une aventure qui en vaut vraiment la peine. L'aventure de la foi. Quand on parle de la foi, on pourrait en dire plein de choses. Aujourd'hui, si je devais résumer ce qu'est l'aventure de la foi pour l'Ecclésiaste, je dirais que c'est un chemin d'acceptation. Accepter de se mettre en action. Accepter de ne pas tout contrôler. Et accepter de ne pas tout savoir. Premièrement, accepter de se mettre en action. Partir à l'aventure, ça implique un peu quand même une mise en action. Si on prend le cas mythique d'Indiana Jones, l'aventurier par excellence, hein, s'il vous plaît, il ne vit pas ses aventures en mode posé, sur son bon gros fauteuil en cuir, une pipe à la bouche, les pieds bien enfoncés dans ses chaussons. Non, on parle d'Indiana Jones, le gars qui est à la fois professeur et qui a toujours un sac prêt sous son lit, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe, et qui est toujours prêt à partir à l'aventure. Quand je pense à aventure, moi je pense Indiana Jones, peut-être que vous penserez à quelqu'un d'autre. Du coup, pour moi, qui dit aventure dit action. Et il en va de même pour l'aventure de la foi. C'est une aventure dans laquelle on a mis le pied à partir du moment où on a cru en Jésus, où on a dit « Oui Seigneur, je te laisse les rênes de ma vie ». Et parce que c'est une aventure, la foi nous pousse à l'action. Jacques, dans son épître, nous enseigne que les œuvres sont la preuve de l'authenticité de notre foi. Les œuvres sont la preuve de l'authenticité de notre foi. Dans notre passage, l'Ecclésiaste va nous inviter aussi à se mettre en action. Si on regarde le texte, il nous donne plusieurs injonctions. Jette ton pain à la surface de l'eau, verset 1. Donne-en une part à 7 et même à 8, verset 2. Verset 6, sème tes graines dès le matin, ne laisse pas ta main en repos. L'Ecclésiaste nous encourage à oser nous lancer. Oui, mais comment ? Ça, c'est une question. Si on prend deux chapitres plus loin, il nous donne une piste. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Autrement dit, ne restons pas inactifs en attendant que les choses nous tombent tout de suite entre les mains. L'essentiel, c'est de se bouger. Car, suite du verset, il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts là où tu vas. En gros, c'est le moment ou jamais. C'est tant que nous sommes sur cette terre que nous pouvons agir. En tant que chrétiens, nos actions sont motivées par notre foi en Jésus. Du moins, devraient être motivées par notre foi en Jésus. Par son exemple, par les enseignements qu'il nous a laissés. Et la Bible regorge d'exemples, de pistes, de moyens d'action. On peut agir en étudiant la parole. Tendre la main aux pauvres. Se soutenir mutuellement. S'encourager. Faire des disciples. Annoncer l'évangile. Exercer l'hospitalité. Aimer quoi ? Et toujours, toujours, ces actions doivent être précédées et accompagnées par la prière. Comme ce vieux cantique nous l'apprend. Prie, agis jour après jour, Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Mais se mettre en action, ça nécessite parfois de prendre des risques. Et autant se mettre en action, ça peut passer, autant prendre des risques, c'est pas toujours notre tasse de thé. Et pour cause. Prendre des risques, ça peut réveiller des peurs. Des peurs plus ou moins enfouies. Peur de faire le mauvais choix. Peur de mal faire. Peur de se mettre dans une situation inconfortable ou de sortir complètement de sa zone de confort. Peur d'échouer. Ça peut aussi mettre en lumière des fausses croyances qu'on a sur nous. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis inutile. Tout ce que je fais échoue. Je ne suis pas prêt. Mes amis, ces peurs ou ces croyances peuvent être un frein dans notre marche chrétienne. Mais elles ne devraient absolument pas l'être. Ce sont autant de pensées qui nous empêchent de servir librement notre Dieu. J'aimerais nous inviter ce matin, cet après-midi. C'est le direct, hein, désolé. À identifier ses peurs ou ses croyances et à demander à Dieu de nous en libérer. Prendre des risques, ça nécessite de la foi. Tout comme la foi nécessite de prendre des risques. C'est nécessaire, indispensable. C'est l'essence même de la foi. Si nous savions où nous mettons les pieds, il n'y aurait plus de foi. On saurait à quoi s'attendre. Il faut avouer que se mettre en action, ça peut coûter. De l'argent, du temps, de l'énergie, et j'en passe. Et tout ça, ça peut nous rendre vulnérables par moments. Mais rappelons-nous, dans l'aventure de la foi, nous ne plaçons pas notre foi en n'importe quoi ou en n'importe qui. Notre foi, on la place en Dieu. Seule la foi en Dieu peut permettre un tel renoncement. Seule la foi en Dieu peut calmer nos peurs, nos doutes, nos insécurités. Ce qui nous pousse à pouvoir prendre des risques, à nous mettre en action, c'est que Dieu, il veille. Que Dieu, il ne nous abandonne pas. Qu'il est toujours à nos côtés. D'autant plus que les œuvres que nous faisons, c'est des œuvres que lui a préparées d'avance. Il va être là, il ne va pas nous lâcher. Oui, passer à l'action nécessite de prendre des risques, mais il est dit que notre travail ne sera pas vain. Il portera du fruit. Le pain qu'on a jeté à la surface de l'eau, on le retrouvera avec le temps. Comment? Quand? On ne sait pas. Pour être tout à fait honnête, ça ne nous appartient même pas de le savoir. Notre tâche à nous, ce qu'aujourd'hui nous devons faire, c'est nous rendre disponibles, nous rendre prêts à être utilisés et nous mettre à l'œuvre. Le reste, ça appartient à Dieu. Accepter de se mettre en action, c'est étroitement lié avec notre deuxième point, accepter de ne pas tout contrôler. Pas besoin d'avoir fait des études en météorologie pour savoir ça. Les gros nuages annoncent souvent de la pluie. Et cette semaine, je pense qu'on a pu l'expérimenter. quand bien même tu rêverais qu'il y ait du soleil aujourd'hui, parce que ce matin, comme par hasard, tu n'as pas pris ton parapluie. Tu pries, tu te dis « Ah, faut que les nuages se poussent !» Bah, c'est pas toi qui es au contrôle des nuages. Ils annoncent la pluie et tu risques très probablement de te prendre une grosse saucée. Parce qu'on n'a pas de pouvoir sur certaines circonstances. Ça ne dépend pas de notre volonté, ça ne dépend pas de notre contrôle. En parlant des nuages pleins de pluie ou de l'arbre qui reste là où il est tombé, l'Ecclésiaste veut nous mettre en fait ici face à nos limites. Il veut, par cet exemple, nous sensibiliser au fait que des aléas de la vie, des choses qui ne dépendent pas de notre contrôle, il y en aura toujours. Comme dirait Inès de la Fressange, la vie n'est jamais comme on l'avait prévu. Et c'est bien comme ça. La vie n'est jamais comme on l'avait prévu. Et c'est bien comme ça. Et oui, c'est ce qui caractérise la vie, pleine d'imprévus, bons ou mauvais, qui bousculent notre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire face à ça ? Est-ce qu'il faut qu'on se croise les bras, qu'on attende le bon moment pour agir ? Sûrement pas. Les circonstances de la vie ne devraient pas nous empêcher de nous mettre en action. C'est ce que dit le verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Si nous passons notre temps à craindre ou à guetter l'imprévu, on ne fera jamais rien. Alors oui, on fera probablement des erreurs. Oui, on fera probablement des choses inutiles. Peut-être même qu'on essuiera des échecs. Mais, mes amis, la foi ne nous épargne pas les essais. La foi ne nous épargne pas les essais. Accepter de ne pas tout contrôler, au final, c'est remettre les choses à leur place entre Dieu et moi. C'est accepter que je ne suis pas Dieu. Dans l'aventure de la foi, je reconnais que je suis une créature, la créature de Dieu, la servante. Et que Dieu, lui, est le Créateur, le Tout-Puissant. Dans l'aventure de la foi, je reconnais que j'ai une part à faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais qu'au final, le résultat ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu. Pas facile, hein. La Bible nous apprend que Dieu nous fait la grâce de nous mettre à l'œuvre. C'est pas parce qu'on le mérite, c'est pas parce qu'on fait les choses bien, mais c'est parce que c'est par grâce. Parce qu'il veut qu'on puisse prendre part à son plan. Et Dieu, du coup, ne nous met pas la pression. Il sait que les personnes qui l'appellent sont imparfaites. Il sait que les personnes qui l'appellent risquent d'essuyer parfois des échecs. Il sait bien qu'on pourra faire des erreurs. C'est nous qui l'oublions. Si Dieu ne nous met pas la pression, pourquoi est-ce que nous, on se la met ? Accepter de ne pas tout contrôler, c'est rendre sa place à Dieu. C'est arrêter de croire que ma vie est entre mes mains et que Dieu a plus ou moins son mot à dire dessus. Il a entièrement son mot à dire dessus. Prenons juste quelques secondes pour nous examiner. Dans quel domaine de ma vie j'ai encore du mal à laisser le contrôle à Dieu? Dans quel domaine de ma vie j'ai encore du mal à laisser le contrôle à Dieu? Mon premier voyage en mission, c'était en 2009, c'était au Bénin. C'était ma première fois en Afrique, mon premier tout, quoi. Première fois loin de mes parents, enfin tout ça. Et alors, pour nous préparer un peu psychologiquement à ce qu'on allait trouver sur place, on nous avait donné ce proverbe africain. Les Européens ont la montre, nous, nous avons le temps. Une jolie manière de dire qu'un planning n'est pas forcément fait pour être tenu. Au fur et à mesure du séjour, je me suis rendu compte qu'à trop vouloir m'en tenir au planning, comme la fille très scolaire que je suis, en fait, je risquais de passer à côté de choses assez incroyables, à côté de rencontres incroyables. Et pourtant, il aurait été hors de question de partir sans planning. La foi, l'aventure de la foi, c'est accepter que le planning de notre vie risque d'être modifié par les circonstances. Et que c'est bien comme ça. Tout simplement parce que quand certaines situations vont nous échapper, lui, Dieu, a le contrôle sur tout. Ça ne lui échappe pas à lui. Chaque aspect de notre vie, chaque décision, chaque projet, chaque service qu'on fait dans l'Église est entre de bonnes mains. C'est pas rassurant, ça? Jean Gabin chantait « Maintenant, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » L'aventure de la foi nous amène à accepter de ne pas tout savoir. Qu'est-ce que j'aimerais tout savoir? Curieuse comme je suis, mais c'est pas possible. À 4 reprises dans notre passage, l'expression « tu ne sais pas » revient. Tu ne sais pas. Impossible d'être plus clair. L'Ecclésiaste nous encourage à passer à l'action. Mais il nous rappelle aussi que nous ne connaissons pas tous les tenants et les aboutissants. En lisant la Genèse, surtout le début, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de silence, de questions laissées en suspens. À titre d'exemple, d'où sort l'épouse de Caïn? Comment ça, il y avait des géants sur la terre un jour? Et c'est qui ces fils de Dieu dans Genèse 6? Je vous donnerai pas les réponses parce que la Bible mentionne ces choses mais ne nous donne pas d'explication. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas choisi de nous le faire savoir. L'œuvre de Dieu est mystérieuse. Ses choix peuvent paraître surprenants. Je vais vous citer un exemple. Dans la famille, le leader, enfin dans la famille du côté de ma mère, hein, le leader c'est mon grand-père. Charismatique, pragmatique, la tête sur les épaules, direct, visionnaire. Il est ce genre de personne à qui on n'hésite pas à faire appel pour prendre des responsabilités. À côté de lui, ma grand-mère, elle est plutôt discrète, douce. Elle n'aime pas du tout se mettre en avant, elle déteste les grands rassemblements publics. Encore plus, elle déteste s'exprimer en public. C'est une femme de foi, mais qui sert dans l'ombre. Et pourtant, Dieu a choisi d'appeler ma grand-mère à fonder et diriger pendant 10 ans l'association Femmes 2000 qui organise tous les 3 ans des congrès. Des gros congrès. Il l'a appelée à être leader, alors qu'à première vue, elle n'en a pas du tout l'air, ça je vous l'assure. Pourquoi Dieu choisit telle ou telle personne? Pourquoi Dieu, des fois, me choisit pour telle ou telle tâche? On ne comprend pas toujours ça. Parfois, on essaye même de lui dire « Seigneur, tu pourrais pas faire un peu les choses comme ça? Ça m'arrangerait bien. » Mais parce que Dieu est Dieu, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il sait ce qui est bon, même quand nous, on ne le sait pas, ou qu'on croit le savoir. Bien sûr que ne pas tout savoir, c'est flippant. Bien sûr que c'est parfois même frustrant. Mais chaussons les lunettes de Dieu une seconde. Parce qu'on ne sait pas tout, l'aventure de la foi peut justement être une aventure. C'est pas génial, ça ? Ne pas savoir, ça nous permet de persévérer avec foi, car en fait, on ne sait pas ce qui va aboutir. Est-ce que ce sera ceci ou cela, verset 6, est-ce que l'un et l'autre seront également bons ? Ne pas savoir nous permet de compter sur Dieu, et uniquement sur lui, parce qu'au final, c'est le seul à savoir ce qui nous attend. Alors oui, nous sommes les ouvriers de Dieu, mais des ouvriers à l'aveuglette. Cependant, quand Dieu choisit de nous utiliser, il nous équipe. Mais petit bout par petit bout. Car sinon, on pourrait croire qu'on est capable de se débrouiller sans lui. Finalement, Dieu, c'est un peu comme notre lampe de poche, dans une nuit noire, très noire. Imaginez une nuit pendant laquelle il fait tellement sombre qu'on n'arrive pas à voir ce qui est juste là, qu'on tâtonne pour marcher. C'est bon, vous l'imaginez bien. Par contre, si on nous donne une lampe de poche, on va voir ce qui est sur notre chemin. Pas très loin, juste quelques mètres. Mais c'est suffisant pour ne pas tomber dans un trou, ce qui serait dommage. C'est suffisant pour ne pas se prendre un arbre. C'est suffisant pour ne pas trébucher. Dieu soit loué. Il nous a donné sa parole pour être une lampe à nos pieds. Et il a envoyé son Fils, la lumière du monde, pour nous guider dans la bonne direction. On peut avancer avec confiance. En fin de compte, ne pas savoir ce qui nous attend laisse place à de belles surprises. Et c'est clair que Dieu, il en a plein en réserve. Pour nous, individuellement, pour notre Église. Ne soyons pas inquiets. Osons plutôt entreprendre. Multiplions les démarches. Après tout, nous ne savons pas ce qui réussira. C'est par exemple le pas de foi que sont amenées à faire des milliers de personnes quand elles cherchent un travail. Déposer des CV. Parfois même dans des entreprises où ça les botte pas vraiment. Tout ça dans le but d'avoir une réponse positive. Peut-être que la réponse viendra pas tout de suite, qu'ils auront des refus, mais il faudra persévérer. L'Ecclésiaste encourage ce genre de démarche. Nous n'avons rien à perdre. N'ayons pas peur de prendre des décisions. N'ayons pas peur d'entreprendre, d'oser nous lancer. Et surtout, n'oublions pas que de toute manière, c'est Dieu qui nous conduit. Pour conclure, si je devais résumer ce qu'est l'aventure de la foi, je dirais que c'est un chemin d'acceptation. Accepter de se mettre en action. Accepter de ne pas tout contrôler. Accepter de ne pas tout savoir. L'aventure de la foi, c'est le programme de toute une vie. Et à l'heure où je conclus ce message, je dois avouer que je suis encore loin d'avoir tout compris et tout accepté. Et ça sera probablement encore le cas quand le Seigneur me rappellera à lui. Mais pour autant, persévérons. L'aventure de la foi, c'est quelque chose qui nous ébranle. C'est quelque chose qui nous secoue de toutes parts. On est amené à prendre des risques, à faire des choses qui parfois nous semblent contre-productives, sans être sûr qu'on verra un jour le résultat. Mais rappelons-nous, l'œuvre de Dieu va au-delà de ce qu'on peut saisir. Mais il fait la grâce, il nous fait la grâce de nous y associer en se servant de nous. Alors, la question c'est, accepterons-nous cette offre qu'il nous propose? Accepterons-nous l'aventure qu'il nous propose? Vous voyez cette page blanche? Toute blanche, hein? Elle est magnifique. Il n'y a aucune marque, aucune pliure. La page blanche est disponible. Elle est dépendante de ce qu'on voudra bien écrire dessus. Ou dessiner, si vous avez un talent pour le dessin, ce n'est pas mon cas. Frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous soyons aussi cette page blanche entre les mains de Dieu. Disponible, dépendant, une page que Dieu prendra le soin de remplir lui-même. Amen.